Mes bien-aimés frères et sœurs, que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu qui nous rassemble et de Jésus-Christ qui nous aime et nous conduit. Le Seigneur nous appelle, le Seigneur nous unit, il est présent parmi nous aujourd'hui. Je vous souhaite, à l'occasion de ce culte audio de ce 5 avril 2020, dimanche des rameaux, une très bonne écoute. Le confinement se prolonge, mais nous sommes néanmoins heureux de nous retrouver en esprit fraternel pour s'arrêter un temps et se mettre à l'écoute du Seigneur. Alors, où que vous soyez, je vous invite à prier avec moi que Dieu nous fasse la grâce de prendre place aux côtés de chacun d'entre nous ce matin. Notre Dieu, notre Père, nous te remercions pour ce jour et cette heure mis à part dans notre vie. Voici un temps de paix, d'écoute et de louange. Un temps où par ton esprit, nous apprenons à vivre en communion avec Jésus-Christ. Que ce culte soit signe et témoignage de ton amour et du salut que tu nous donnes. Nous te le demandons dans le précieux nom de ton Fils Jésus et nous te disons un grand Amen. Oui Seigneur, nous savons que tu es aux côtés de chacun d'entre nous et nous voulons te louer et chanter. Chantons, venez le célébrer, Arc-en-ciel 237.
Venez le célébrer, son grand amour, venez le chanter, le Fils de Dieu est venu, donnez la vie, nous te fêtons au roi, car tu nous fais partager ta joie, et nous offrons en ton honneur, un chant d'amour Seigneur.
Nous poursuivons ce dimanche notre route vers l'événement majeur de notre calendrier, la fête pascale. Aujourd'hui, dimanche des rameaux, nous sommes précisément à une semaine de Pâques. Peu de personnes le savent encore, mais les pères de l'Église ont défini la date de Pâques comme étant le dimanche qui suit la pleine lune après l'équinoxe de printemps. C'est donc aussi un événement astronomique, lunisolaire important. C'est un peu comme si nous attendions que tout l'univers s'aligne pour honorer le Seigneur et commémorer sa résurrection. Nous entrons demain dans ce que l'on appelle la Semaine Sainte. Dans les premiers temps de l'Église, cette semaine revêtait une très grande importance. 40 jours avant Pâques, les premiers chrétiens entraient dans une période d'abstinence de toute consommation animale. De cette pratique importante, il ne reste plus que le carnaval qui débutait cette période. Le mot carnaval vient d'ailleurs de l'italien ancien carne levare qui voulait dire viande jetée. Et aux 7 derniers jours de cette pratique fervente s'ajoutait également un jeûne de plus en plus intense, pour finir à un jeûne complet, le Vendredi Saint, jour de la crucifixion de notre Seigneur Jésus. Les orthodoxes suivent encore assez bien ces recommandations, mais aujourd'hui, selon les traditions chrétiennes, on consentira quelques petits sacrifices. Certains s'abstiendront de leurs produits préférés, comme par exemple le chocolat, ou aussi, chez nos frères catholiques, on mangera du poisson à la place de la viande le Vendredi Saint. Et peut-être que certains d'entre vous proposeront même aussi aux enfants de s'abstenir de tablettes ou de smartphone au moins un jour, comprenant que plus et en confinement, cela risque certainement la grosse crise à la maison. Mais dans certaines confessions protestantes, considérant le salut par la foi seul, le sola fide, nous pensons que nous serions exemptés d'une pratique qui pourrait s'apparenter à des actes d'ascèse ou de mortification. Et cette remarque pourrait être juste, car nous considérons depuis la réforme que ce ne sont pas les actes qui sauvent, puisque la grâce de Dieu est bien offerte. Mais les pères de l'Église n'ont jamais présenté la période précédant Pâques comme une ascèse, mais plutôt comme une préparation à l'imitation du Seigneur. Et je reprendrai ici deux points qu'évoquait le pasteur Luc Lucoussa dans sa prédication du premier dimanche de cette période de Pâques. Premièrement, il nous présenta la relation que nous pouvons faire entre les 40 jours au désert du Christ, qui se terminèrent par la visite et les tentations du diable, et ces 40 jours qui nous mènent vers Pâques et qui se terminent par la Semaine Sainte. Et rappelons-nous que certains combats spirituels nécessitent, en plus de la prière, le jeûne. Ce même jeûne qui nous est conseillé pour la fin de la Semaine Sainte. Pâques, c'est donc aussi un passage qu'il nous faut faire soi-même, un passage difficile. Second point, notre pasteur évoqua Jésus comme nouvel Adam. Le Seigneur nous ouvre la voie par sa résurrection vers le royaume de Dieu. Il est notre médiateur et rédempteur par cette action. La résurrection est bien le moyen pour notre accès au royaume du Père, mais pas la finalité. Ainsi, je voudrais évoquer ici l'idée de la double nature du Christ que développe Calvin dans son instruction à la religion chrétienne. La grâce implique qu'à l'imitation du Christ, nous prenions exemple sur le nouvel Adam, homme parfait, exempt de péché, et d'abandonner notre nature actuelle de l'Adam d'après la chute. C'est cette piste que nous pourrions individuellement explorer à l'occasion de cette Semaine Sainte. Et ce confinement, pour la plupart, que nous vivons actuellement, pourrait être une formidable opportunité pour vivre véritablement ce temps de Pâques aux côtés de notre Seigneur et Rédempteur. Prions. Prions que l'Esprit Saint puisse nous révéler le précieux mystère de Pâques. En attendant, tournons-nous. Tournons-nous vers celui en qui nous devons reconnaître toute la gloire. Chantez avec nous pour l'assurer de notre fidélité le cantique « Ton amour, ta puissance, j'aime 507 ».
Thank you.
Mes bien-aimés frères et sœurs, nous le savons, en tout cas, nous en avons le sentiment, les temps qui vont suivre la pandémie vont profondément changer le monde. Il est à parier que nous aurons affaire à de sérieux revers économiques qui vont impacter notre vie. Mais pourrions-nous aussi voir l'opportunité de ce nouveau monde à venir? Car cette pandémie est l'occasion de remettre les choses à plat dans nos existences. Un article dans la presse cette semaine faisait référence à un habitant de Venise qui se réjouissait de revoir l'eau claire des canaux et les poissons y revenir. De revivre les contacts entre les habitants et voir naître de nouvelles solidarités en l'absence des flots de touristes. Et je vous le demande, saurons-nous revenir au rythme effréné de cette société marchande qui a accablé bien d'entre nous jusqu'il y a peu ? Ou ce retrait forcé qu'une majorité d'entre nous subissons aujourd'hui pourrait-il être l'occasion de se recentrer sur l'essentiel? Et qu'est-ce que l'essentiel, sinon remettre Dieu au centre de notre vie? Une vie à 100 à l'heure qui nous éloignait bien souvent de cet essentiel. Alors oui, crions Dieu au centre et ne nous laissons plus entraîner par le monde. Prions ensemble. Seigneur, nous t'adorons et te louons. Nous nous tenons humblement devant toi. Nous reconnaissons que tu as accompli tes desseins pour le monde. Nous confessons notre refus de voir la promesse d'une nouvelle humanité. Nous sommes submergés par les affaires du monde. Nous sommes distraits de nos engagements par d'autres appels. Nous sommes victimes de nos préjugés, de nos peurs et de notre vision à court terme. Nous te prions, Seigneur, de nous transformer à l'image du Christ. Nous te prions de nous prendre à ton service et de nous utiliser pour que tous les peuples et toutes les nations puissent grandir ensemble en paix et en bonne intelligence. Nous te le demandons au nom du Christ qui seul peut faire de notre fraternité une réalité. Assurons Dieu de notre reconnaissance et repentance et chantons « Pardon Seigneur, pardon, j'aime 642 ». Entrons maintenant dans un temps de louange. Oui Seigneur, sans fin, je chanterai ton amour. D'âge en âge, je proclamerai ta fidélité. Oui, je dis, ton amour est établi pour toujours et ta fidélité est plus ferme que les cieux. Seigneur, nous voulons t'adorer, nous voulons te louer. Écoute nos voix qui montent maintenant vers toi. Chantons et louons le Seigneur notre Dieu. Chantons « Combien Dieu est grand », adaptation de J'aime 870.
Dieu est grand, chantons-le combien allons maintenant laisser la place à David, qui va adresser un message aux enfants.
Bonjour les enfants. Dans la Bible, il y a un tas de versets bien connus. Il y en a même certains que nous connaissons par cœur. Parmi ceux-là, dans le top 10 figure peut-être, en première position, le verset bien connu de Jean 3,16. Le connaissez-vous ? Je vais vous le lire. « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. » Avez-vous déjà pris le temps de réfléchir à ce verset et à ce qu'il veut dire ? Pour vous guider dans la réflexion, je vous propose une histoire. Cette histoire est celle d'un père et de son fils. Un beau soir, un papa rentre de son travail bien épuisé. Lorsque cela arrive, le papa a l'habitude de prendre du temps pour lui, dans son salon, à lire son journal dans le calme. Mais voilà-t-il pas que d'un seul coup, son fils déboule auprès de lui tout excité. Il a envie de jouer avec son papa. « Dis papa, dis, tu viens jouer avec moi dehors ? On va faire un foot ?» Le papa soupire. Il est bien embêté. Il aime jouer avec son fils, c'est certain. Mais il a besoin tout d'abord de se reposer. Il lui vient alors une idée. Il prend son journal, l'ouvre en son milieu et y trouve une carte du monde. Il la prend et la découpe en tout petits morceaux. Et il dit à son fils « Écoute, fiston, voici ce que je te propose. Quand tu auras reconstitué la carte du monde, lorsque tu auras recollé tous ces morceaux, je viendrai jouer avec toi. »« D'accord, papa !» dit le fils. Et il prend les morceaux et part s'isoler dans une autre pièce. Le papa est content de lui. Il reprend place dans son fauteuil et se dit qu'il est tranquille pour un bon bout de temps. Mais voilà qu'après 5 minutes, le fils déboule à nouveau dans la pièce. Il est tout content de lui. « Hé, papa, papa, ça y est, c'est fait! Va mettre tes chaussures, on va sortir! Allez, go !» Le papa ne comprend pas. Il pensait avoir au moins 1 heure ou 2 heures de tranquillité devant lui. Il demande alors à son fils comment il a fait pour faire si vite. Et celui-ci répond « Eh bien, papa, c'était pas difficile. Derrière la carte du monde que tu m'as donnée, il y avait la photo d'un homme. Alors, pour refaire le monde, j'ai refait l'homme. » Et voilà où je voulais en venir avec le verset de Jean 3,16. Je voulais en venir à cette réponse du Fils. « Alors, pour refaire le monde, j'ai refait l'homme. » Si Dieu a envoyé Jésus sur terre, si Jésus a accepté de mourir pour les êtres humains sur une croix, c'était pour changer l'homme, pour nous changer, pour nous refaire, pour nous faire naître de nouveau et nous accorder une vie nouvelle, pour que nous soyons proches de lui. Une vie d'une qualité inimaginable. Et tout ce que nous avons à faire pour cela, c'est mettre notre confiance en lui. Et en refaisant l'homme, Dieu souhaite aussi refaire le monde. Car dans l'homme qu'il a changé, Dieu a placé beaucoup d'amour. Et il veut que cet amour se répande partout sur terre, pour que d'autres soient à leur tour transformés. Alors oui, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle.
Entrons maintenant dans ce temps de la parole et disposons nos cœurs en priant. Père, ta parole est pour nous ferment du royaume et germe d'espérance. Que par ton esprit, nous la recevions avec simplicité et avec joie. Que cette parole nous fasse porter les fruits que tu attends. Nous voulons également te remettre notre pasteur, que nous entendrons. Inspire-le de ton Saint-Esprit et que tes mystères nous soient à tous ici révélés. Nous te le demandons dans le précieux nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous aurons ce matin trois lectures. La première se trouve dans l'Ancien Testament, dans le livre de Ésaïe, chapitre 50, versets 4 à 7. Chapitre 50, Ésaïe 4 à 7. Le Seigneur Dieu m'a donné le langage des disciples pour que je sache soutenir par une parole celui qui est épuisé. Chaque matin, il éveille. Il éveille mon oreille pour que j'écoute à la manière des disciples. Le Seigneur Dieu m'a ouvert l'oreille et moi, je ne me suis pas rebellé et je ne me suis pas dérobé. J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je ne me suis pas détourné des insultes et des crachats. Mais le Seigneur Dieu m'a secouru. C'est pourquoi je n'ai pas été confus. C'est pourquoi j'ai rendu mon visage semblable à du granit, sachant que je n'aurais pas honte. La seconde lecture se trouve dans le Nouveau Testament, l'Évangile de Matthieu, chapitre 21, versets 1 à 11. Matthieu 21, versets 1 à 11. Lorsqu'ils approchèrent de Jérusalem et qu'ils furent arrivés à Bethphagé, vers le mont des Oliviers, Jésus envoya deux disciples en leur disant « Allez au village qui est devant vous. Vous trouverez aussitôt une ânesse attachée et un ânon avec elle. Détachez-les et amenez-les-moi. Si quelqu'un vous dit quelque chose, vous répondrez « Le Seigneur en a besoin » et il les laissera aller tout de suite. » Cela arrivera afin que s'accomplisse ce qui avait été dit par l'entremise du prophète. Dites à la fille de Sion, « Toi, roi, viens à toi, plein de douceur, monté sur une ânesse, sur un ânon, le petit d'une bête de somme. » Les disciples allèrent faire ce que Jésus leur avait ordonné. Ils amenèrent l'ânesse et l'ânon sur lesquels ils mirent leurs vêtements. Il s'assit dessus. La plupart des gens de la foule étendirent leurs vêtements sur le chemin. D'autres coupèrent des branches aux arbres et les étendirent sur le chemin. Les foules le précédaient et le suivaient en criant « Hosanna pour le fils de David ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! Hosanna dans les lieux très hauts !» Lorsqu'il entra dans Jérusalem, toute la ville fut en émoi. On disait « Mais « qui est-il, celui-ci » Les foules répondaient « C'est le prophète Jésus de Nazareth de Galilée. » La troisième lecture se trouve à l'Épître aux Philippiens, Épître aux Philippiens, au chapitre 2, versets 6 à 11. Chapitre 2, versets 6 à 11. Lui qui était vraiment divin, il ne s'est pas prévalu d'un rang d'égalité avec Dieu, mais il s'est vidé de lui-même en se faisant vraiment esclave, en devenant semblable aux humains, reconnu à son aspect comme humain. Il s'est abaissé lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé et lui a accordé le nom qui est au-dessus de tout nom, pour qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue reconnaisse que Jésus-Christ est le Seigneur à la gloire de Dieu, le Père. Amen. Oui Seigneur, nous te remercions pour cette parole que nous venons d'entendre, et nous voulons te louer. En entonnant et chantant, cherchons d'abord Arc-en-ciel 181.
Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes choses vous seront données en plus.
Frères et sœurs, c'est déjà le sixième dimanche de la Passion aujourd'hui, dimanche appelé des rameaux. Nous revisitons ce récit qui inaugure l'entrée glorieuse de Jésus dans Jérusalem et aussi l'entrée dans la semaine de la Passion proprement dite. Jésus s'approche du moment crucial, c'est-à-dire de la croix, afin d'accomplir l'œuvre du salut de l'humanité. C'est pour ce moment qu'il est venu sur la terre. Cette mort sur la croix sera suivie de la résurrection. C'est vous dire combien cela est important pour nous, chrétiens et disciples du Christ. Nous nous posons quand même la question, que révèle cette entrée glorieuse de Jésus dans Jérusalem? Au premier abord, on est tenté de dire qu'il nous révèle l'identité et la mission de Jésus. En effet, on perçoit dans le récit un seigneur, un roi, et sa détermination à aller jusqu'au bout de sa mission pour sauver l'humanité. Très bien. Cependant, une autre lecture attentive nous révèle aussi qu'on peut être dans une foule qui suit Jésus avec des motivations diverses, des attentes diverses et variées. Certaines sont légitimes, d'autres erronées, des visées propres qui sont éloignées de celles de Jésus lui-même. Cela nous montre aussi qu'on peut faire partie d'une communauté et avoir des visions de la réalité tout à fait éloignées de ce que le Seigneur veut transmettre ou veut atteindre pour les siens. Pour le dire plus simplement, on peut être à la suite de Jésus et être dans des ambivalences, dans des ambiguïtés, dans la confusion, c'est-à-dire être habité par des sentiments simultanément opposés. Ce serait dommage de passer à côté de l'essentiel. De quoi avons-nous besoin pour sortir de nos ambivalences, pour sortir de nos ambiguïtés, de nos confusions? Nous avons besoin du discernement dans notre marche en tant que disciples à la suite de Jésus-Christ. Mais comment ? Je vous propose, dans un premier temps, de mettre en évidence les ambivalences qui ont habité les contemporains de Jésus et qui peuvent nous habiter aussi, et observer l'attitude du Seigneur. Dans un deuxième temps, nous demander ce que cela pourrait signifier pour nous aujourd'hui et comment tirer le meilleur parti du récit pour nourrir notre foi de disciples du Christ en route vers Pâques. Eh bien, parlons des ambivalences et des ambiguïtés révélées par Jésus chez ses contemporains. Il y a d'abord ce groupe d'ambivalences et d'ambiguïtés sur l'identité de Jésus lui-même. Le récit commence par cette demande insolite de Jésus à ses disciples. « Allez au village d'en face, vous y trouverez une ânesse et un ânon. Amenez-les-moi. Si quelqu'un vous demande, répondez-lui, le Seigneur en a besoin. » Jésus dispose de cet outil de travail comme s'il en était le maître. En effet, il veut en user comme le vrai propriétaire de ses biens. N'est-il pas en train de révéler et d'affirmer sa seigneurie? C'est ce qu'on peut lire entre les lignes. Jésus est le Seigneur de nos biens. Ensuite, les gens mettent leurs vêtements sur l'âne en guise de selle. D'autres étendent leur manteau sur la route pour en faire comme un tapis rouge. D'autres encore coupent des branches d'arbres et les mettent par terre. Toute la troupe se dirige vers Jérusalem. Il y a là une foule composite qui acclame Jésus. Et dans cette foule, il y a des disciples de Jésus. Peut-être aussi des habitants de Jérusalem partisans de Jésus. Peut-être aussi ceux qui l'avaient guéri. Ou ceux qui avaient mangé du pain qu'il avait multiplié. Mais aussi des badauds qui sont sortis de la ville pour le rencontrer. Ces gens-là se mettent à crier et leur cri exprime ce qu'ils pensent. Ils disent « Hosanna au fils de David, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. » Vous reconnaissez là une citation du psaume 118, verset 25. Déjà Matthieu, avant, avait cité plus haut le prophète Zacharie, en disant « Ton roi vient à toi monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. » Matthieu et ceux qui forment le cortège affirment la royauté de Jésus. On le voit comme le roi d'Israël, le fils de David. C'est le successeur de David. On voit en Jésus un second Salomon, celui qui succède à David comme roi d'Israël. Pendant que la foule acclame Jésus, Luc, dans le passage parallèle, nous indique, je cite, « Quand, approchant, il vit la ville, Jésus pleura sur elle en disant, « Si toi aussi tu avais su en ce jour comment trouver la paix, mais maintenant cela t'est caché. Car des jours viendront sur toi où tes ennemis t'entoureront de palissades, t'encercleront, et te presseront de toutes parts. Ils t'écraseront, toi et tes enfants, au milieu de toi. Et ils ne laisseront pas pierre sur pierre, parce que tu n'as pas reconnu le temps de l'intervention de ton Dieu. » D'un côté, la joie de la foule. De l'autre côté, les pleurs de Jésus sur Jérusalem. Et tout cela, simultanément. C'est cela l'ambivalence des sentiments et des attitudes opposées en même temps. On comprend fort bien cet enthousiasme des manifestants. Depuis plus de 6 siècles, Israël a perdu son indépendance. Le pays était occupé par des armées étrangères sous la domination de pouvoirs païens. Le roi grec Antiochus Épiphane, au IIe siècle avant Jésus-Christ, a même tenté de faire perdre leur foi aux Israélites et de leur imposer sa religion. Les Israélites ont résisté, en partie par les armes, en partie en s'accrochant à leur foi. À ce moment-là est apparue une tendance juive qui s'attachait fortement à la parole de Dieu et à sa mise en pratique. Ce sont les pharisiens. Voilà donc de l'ambivalence sur l'identité de Jésus. Il y a aussi une autre forme d'ambivalence sur la mission même de Jésus. Les Israélites ont toujours voulu redevenir indépendants. Ils ont toujours espéré leur indépendance. Alors quand des Juifs acclament Jésus comme le roi, successeur lointain de David, ils expriment cette espérance. Ils croient le moment venu de rétablir le royaume d'Israël avec Jésus comme roi. Ils s'imaginent sans doute un Messie triomphant et ils s'attendent certainement à quelques événements politiques, à quelques manifestations miraculeuses qui répondent aux aspirations inavouées du peuple. Saluer le roi Jésus, c'est proclamer la restauration d'un État souverain avec un gouvernement indépendant, libéré de l'occupation païenne. C'est à ce titre que Jésus est acclamé. Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni le règne qui vient, le règne de David notre Père. Hosanna au plus haut des cieux. Le peuple vit dans l'attente d'une délivrance politique, ce qui peut expliquer sa liesse. Pendant ce même temps, Jésus pense à une autre libération, spirituelle celle-là, libération de la puissance du péché. Ambivalence. Une lecture attentive du récit laisse planer une ambivalence que les événements de jours suivants ne feront qu'accentuer. Les applaudissements du jour des rameaux feront bientôt place aux accusations et aux vociférations du Vendredi Saint. L'entrée ce jour est glorieuse, c'est celle d'un roi. Mais quand Jésus sortira de Jérusalem vendredi, ce sera chargé d'une croix, comme un criminel. La foule criant « Crucifie, crucifie-le ». Cet équivoque ou ambivalence, vous l'aurez compris, porte sur la véritable nature de la royauté de Jésus, sa véritable mission. Certes, Israël acclame bel et bien son roi en la personne de Jésus, le fils de David. Mais il ne discerne pas en Jésus le Christ, le serviteur souffrant du prophète Ésaïe, venu pour donner sa vie en sacrifice pour le pardon des péchés. Il ne discerne pas en lui l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. C'est ici que nous croisons les deux autres lectures du jour, notamment celle d'Ésaïe le prophète et de l'apôtre Paul. Ainsi lisons-nous dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 50 et au verset 6 « J'ai livré mon dos à ceux qui me frappaient et mes joues à ceux qui m'arrachaient la barbe. Je n'ai pas dérobé mon visage aux outrages et aux crachats. » Voilà le Messie promis. La royauté de Jésus passe par la croix. C'est en donnant sa vie, en s'offrant lui-même en sacrifice pour le péché que Jésus est intronisé comme roi, que Jésus est véritablement le Seigneur, comme le dit Paul dans son épître aux Philippiens au chapitre 2. Lui dont la condition était celle de Dieu, il n'a pas estimé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu. Mais il s'est dépouillé lui-même en prenant la condition d'esclave, en devenant semblable aux hommes. Il s'est humilié lui-même en devenant obéissant jusqu'à la mort sur la croix. Et c'est pourquoi, poursuit Paul, Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tous genoux fléchissent dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. » Fin de citation. C'est cela, frères et sœurs, la royauté de Jésus-Christ. Il est là le sens véritable de sa venue sur la terre, comme aussi de son entrée à Jérusalem le jour des rameaux. Jésus est bien le roi d'Israël, certes, et c'est bien comme tel qu'il entre à Jérusalem, mais non à la façon dont l'espèrent les hommes. Ambivalence aussi lorsque la foule acclame Jésus et lorsque le peuple est suspendu aux lèvres de Jésus alors qu'il enseigne dans le temple les chemins de Dieu. Pendant ce temps, les pharisiens, les scribes, les chefs du temple cherchent à se débarrasser de Jésus, cherchent tout simplement à le tuer. D'ailleurs, la foule elle-même, quelques jours plus tard, aura transformé ses acclamations de joie en cris de haine et de mort et hurlera « Crucifie-le ! Crucifie-le !» Terrible foule qui le matin d'un jour intronise son roi et qui le soir d'un autre jour l'envoie à la potence. Foule de moutons, prête à suivre le premier tyran qui lui promet du pain et du spectacle. Foule anonyme, menée par les meneurs qui hurlent avec les loups, qui jugent sur l'apparence. Foule dévoyée par les mauvais bergers. Ambivalence, quand tu nous habites. Frères et sœurs en Christ, chaque année, nous lisons et relisons ce récit. Voyez les ambivalences. Voyez les contradictions qui le traversent. Une fête qui conduit à la mort. Une foule qui acclame et accueille celui qu'elle rejettera quelques jours plus tard. L'ambivalence même des disciples qui débordent d'enthousiasme et qui laisseront Jésus seul pour affronter l'épreuve. Disciples qui ne pourront pas veiller une heure avec leur maître au jardin des Oliviers. Disciples proches qui refuseront de témoigner en sa faveur. Disciples qui renieront d'être reconnus et qui s'enfuiront au moment du supplice. On voit bien, Jésus est entouré par des gens, mais Jésus est royalement seul. Mais souvenons-nous, déjà au moment de la naissance de Jésus, quelques semaines après, lorsque Joseph et Marie vont au temple pour accomplir la purification et présenter l'enfant au Seigneur, le vieux Siméon, homme juste et pieux qui attendait la consolation d'Israël, avait prophétisé, en ces termes d'ailleurs, « Voici cet enfant est comme un signe qui provoquera, qui mettra à nu la contradiction. » Oui, Jésus est un signe qui, au cours de sa vie, a dénoncé souvent l'incrédulité profonde de ses auditeurs. Il a révélé les secrets des cœurs. Jésus connaît ces contradictions qui habitent la foule, les disciples, les autorités du temple et les pharisiens. Mais ce qui est étonnant ici, c'est que Jésus accepte ces contradictions et ces ambivalences. Il accepte d'être acclamé par la foule qui le rejettera et par les disciples qui le renieront et l'abandonneront. Il laisse dire, il laisse faire. Il accueille ce qui peut être dit à ce moment-là, même s'il sait que le contraire sera dit ou fait après. Il ne fait pas de reproches. Au contraire, c'est lui qui prend l'initiative. C'est lui qui envoie les disciples. Jésus met à nu les secrets des cœurs. Que pourrait alors signifier tout cela pour nous ici et maintenant? C'est donc là notre deuxième partie. Nous aussi, frères et sœurs, nos vies sont habitées par toutes sortes de contradictions et d'ambivalences. Celui que nous appelons Seigneur, Seigneur, et nous le croyons parfois profondément, quand il nous indique un chemin à suivre, nous n'avons pas toujours facile à le suivre. Quand il nous dit « Ma parole est une richesse, une source de sagesse, de discernement, nourrissez-vous-en. » Regardez, regardez qu'est-ce qui remplit nos pensées, qu'est-ce qui remplit notre vie. C'est bien d'autres pensées, n'est-ce pas? Celles que nous avons lues quelque part, celles que nous avons reçues de notre tradition familiale ou d'autres maîtres, n'est-ce pas? Un culte d'une heure et demie ou une prédication de 25 minutes, nous trouvons cela insupportable. Et pourtant, nous pouvons passer des heures et des heures devant la télé ou l'ordinateur ou à l'entretien de notre voiture, de notre maison. Revenons quelques instants au comportement de Jésus dans ce récit. Le Seigneur a besoin de l'ânesse et de l'ânon, richesse pour son propriétaire, moyen de transport, outil économique. On pourrait dire que c'est l'équivalent de notre voiture, notre camionnette aujourd'hui. On peut même élargir et l'étendre au reste de nos autres biens matériels, intellectuels ou spirituels. Sommes-nous prêts à lui céder tous ces biens que nous considérons nôtres? Que serions-nous prêts à lui céder véritablement s'il le demande? C'est toute la question de nos relations au bien qui est en jeu. Est-il le Seigneur de nos biens? Nous qui aimons tant dire « c'est ma maison, c'est mon travail, c'est mes enfants, ma famille, mon argent », est-il le Seigneur de nos vies? N'est-ce pas plus facile à dire qu'à vivre pour nous aussi? Il est vrai que nous vivons des temps particulièrement difficiles, où il est bien moins qu'évident de confesser et de vivre véritablement la Seigneurie de Jésus-Christ dans tous les domaines de la vie. Il est vrai que le monde dans lequel nous sommes, la société qui est la nôtre, est sans doute, plus qu'à n'importe quel autre moment de son histoire, marqué par l'incrédulité et par ce qu'il convient d'appeler l'humanisme sans Dieu, qui n'est qu'une folle prétention de l'homme à être son propre Dieu, son propre Sauveur, son propre Seigneur. Il est vrai que l'Église et les chrétiens ont bien de la peine à faire entendre leur voix, tandis que les valeurs traditionnelles, les valeurs qui ont fait autrefois la force de l'Occident, les valeurs chrétiennes sont piétinées, remises en question en bien des endroits et chez beaucoup de nos contemporains. Alors, comment vivre concrètement la Seigneurie de Jésus-Christ, tandis que le monde autour de nous la rejette bel et bien? Autant de questions que je laisse à votre réflexion. Frères et sœurs en Christ, nos vies sont habitées par toutes sortes de contradictions, d'ambivalences, ce que nous sommes et ce que nous voulons être, ce que nous laissons voir et ce que nous cachons, ce que nous clamons haut et fort comme nos convictions et ce que nous parvenons péniblement à accomplir dans nos actions, ce que nous disons sans le faire et ce que nous faisons sans y croire. Ces contradictions sont un peu partout, dans notre identité et notre vision de nous-mêmes, dans nos relations avec les autres, dans nos pensées, jusque dans notre relation avec Dieu. Nous voulons croire et vivre dans la vérité de Dieu. Et dès que la parole se fait trop précise, nous nous donnons des excuses, parfois même nous accusons le prédicateur. Nous faisons quelques pas en avant et quelques autres pas en arrière. J'illustre cela par une histoire me racontée par un collègue. Voici une église qui est en pourparlers avec un candidat pasteur. Notre église, disent les responsables, comme vous allez vous en rendre compte, est vieillissante. Il manque cruellement d'enfants et de jeunes. Nous aimerions aussi grandir. Là, nous sommes une vingtaine, et pourtant, nous pouvons accueillir une centaine de personnes. Quelque temps plus tard, il y a une trentaine de jeunes et autant d'enfants, en plus des adultes. Réaction du noyau de base, il y a beaucoup trop d'enfants dans notre église, ils courent, font du bruit, et puis la facture d'électricité et de chauffage a augmenté. Nous ne reconnaissons plus notre église. Il faut que ça change. Le pauvre pasteur s'est fait descendre par les mêmes responsables qu'il avait mis au défi de renouveler la communauté. Quelles ambivalences! Il voulait une église avec enfants et jeunes, une église qui grandit, mais des enfants qui ne bougent pas, des finances qu'il fallait absolument thésauriser. On ne peut pas vouloir une chose et son contraire. Mais c'est cela, l'ambivalence. Je m'arrête là, je pense que vous voyez ce que je veux dire. La Bible appelle cela avoir un cœur partagé. C'est Jésus qui met tout cela à nu, qui révèle l'état de notre être partagé. Mais nous avons quelques défis au cours de cette semaine qui s'annonce, qui s'ouvre devant nous. Frères et sœurs, nos cœurs sont partagés. Et vivre avec un cœur partagé ne nous rend pas heureux. Parfois, nous pouvons même en arriver à avoir le sentiment de marcher à côté de nous-mêmes, de vivre dans un personnage que les circonstances et nous-mêmes avons fabriqué pour tenter d'apprivoiser ces contradictions, qui sont autant de blessures, de souffrances. Parfois, nous avons le sentiment d'être en exil, loin de nous-mêmes. Alors, frères et sœurs, je vous pose la question, qu'en est-il de vous-même aujourd'hui, au moment où nous sommes en route vers Pâques? Quelle compréhension avez-vous de l'Évangile et comment entendez-vous vivre cette semaine de la Passion? Comment concevez-vous et vivez-vous la Seigneurie de Jésus-Christ, la royauté de Jésus-Christ? Qu'est-ce que tout cela signifie vraiment pour vous, concrètement, dans votre vie de tous les jours? Quelle place réelle le Christ occupe-t-il dans votre vie? Dans quelle mesure le Christ et l'Évangile occupent-ils vraiment la première place dans votre vie, la place d'honneur, la place royale? Frères et sœurs, nous avons besoin de l'aide de l'Esprit Saint pour avoir accès à des choses spirituelles. Et nous pouvons même faire une prière. Esprit de lumière, viens éclairer notre connaissance de Dieu, de Jésus-Christ et de ta parole. Viens surtout nous donner la capacité de nous attacher à notre Seigneur. Mes frères et sœurs, ce matin, il y a une bonne nouvelle pour nous, une parole du Seigneur, parce que Jésus est celui qui peut révéler ces contradictions dont nous ne pouvons nous sortir tout seuls. Il fait cela, non pour nous condamner, mais en venant habiter en nous par son Esprit, il met en lumière toutes nos contradictions humaines. Et avec notre concours, il veut nous transfigurer. La parole que Dieu nous adresse aujourd'hui, c'est que jusque dans nos contradictions, Dieu est présent contre toute attente. Nous pouvons trouver le chemin de la guérison, de la réconciliation et sortir de nos contradictions. Parce que Dieu lui-même est venu en Jésus-Christ habiter nos contradictions. Il les a assumées, il les a dévoilées, les a traversées pour nous. Et il a ouvert un chemin de vie, un chemin de paix que Dieu veut pour nous. La bonne nouvelle, c'est que la croix est une porte. Et cette porte nous permet de sortir de nos contradictions pour entrer dans la réalité nouvelle du Christ, mort et ressuscité, qui nous réconcilie, nous unifie et nous pacifie. Bien-aimés en Christ, nous nous approchons de Dieu avec des motivations diverses, avec des attentes diverses et variées. Certaines sont légitimes, d'autres sont erronées ou mauvaises. Ce qui importe, c'est de se laisser conduire par le Seigneur Dieu et d'apprendre à toujours le découvrir tel qu'il se révèle à nous et tel qu'il nous révèle ses desseins au fur et à mesure de notre marche avec lui. Le but ultime étant que son nom soit sanctifié en nous et par nous, que son règne vienne en nous et par nous, et que sa volonté soit faite en nous et par nous. Il nous faut passer d'une foi centrée sur l'homme à la foi centrée sur Dieu. Car la foi centrée sur l'homme, sur nous-mêmes, nous fera courir le risque d'instrumentaliser Dieu, de vouloir que notre volonté soit faite sur la terre comme au ciel, de réduire Dieu à un distributeur de bénédictions, tandis que la foi centrée sur Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit, est celle qui donne véritablement gloire à Dieu et nous permet d'honorer le premier et le plus grand des commandements, à savoir, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de tout ton être, de toute ta force et de toute ta pensée. De la sorte, nous devenons de mieux en mieux disciples du Seigneur Jésus-Christ en nous laissant profondément évangéliser, guérir, délivrer, apaiser. Une vie de disciples dans laquelle nous mobiliserons avec l'aide du Saint-Esprit toutes les ressources physiques, intellectuelles, psychiques, morales et spirituelles pour le royaume de Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. Bonne fête ou bonne route vers Pâques. Amen.
Chers frères et sœurs, je vous invite maintenant à confesser notre foi et chantons. Chantons « Je crois en Jésus, j'aime 424 ». Je vous invite maintenant dans une prière d'intercession. Seigneur, tu es lumière des nations. C'est toi qui les fais vivre, qui les juge et qui les sauve. Dans ta bonté, tu uses de patience envers elles. Ensemble, nous te présentons notre pays. Nous te remercions pour les richesses de notre terre, de notre culture et de notre histoire, et t'en apportons les difficultés et les échecs. Ô Père, nous confions notre terre à ton amour, à ta garde, à tes soins. Donne-lui de chercher ta gloire plutôt que la sienne et de répondre à ton souci pour la justice et pour les pauvres. Éclaire et affermis ton Église pour que, soumise à l'exigence de ta vérité, elle apporte clairement à notre peuple ta parole de justice et de liberté. Nous te prions aussi pour les autorités et nos magistrats, afin que nous menions tous une vie paisible et tranquille dans la foi et la dignité, et qu'elle puisse être à même de gérer la dure crise du coronavirus. Suscite dans notre pays des hommes et des femmes de droiture, de clairvoyance et de courage. Donne à chaque citoyen le sens de son devoir civique, alors que nous sommes tous touchés par cette pandémie. Par ton esprit de paix et d'amour, triomphe de nos divisions et apprends-nous l'entraide et la fraternité. Nous prions pour tous ceux qui, par leur travail, participent au bien collectif, alors que nous sommes pour beaucoup confinés ou malades. Nous prions pour les personnes isolées par ces événements. Donne-nous d'être tes mains à leur service. Dieu de vérité, ouvre le cœur et l'esprit de notre peuple à la connaissance de ton Fils Jésus-Christ, l'unique Sauveur des nations comme des hommes. Amen.
Recevons maintenant la bénédiction de la part du Seigneur. Que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps, soit conservé irrépréhensible lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Celui qui vous a appelé est fidèle, et c'est lui qui le fera. Amen. Puisque vous avez tout reçu par grâce, de la part de Dieu, allez et soyez témoins de la grâce que Dieu vous a manifestée. Amen. Nous terminons par le chant « À l'agneau de Dieu » dans J'aime 519.
Avec force et louange. la victoire.